Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, il est 8h sur l'ensemble de nos radios partenaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. La célébration de la journée de la liberté de la presse se poursuit. Des organisations, des journalistes dénoncent les violences sur les femmes des médias et invitent à leur protection. Mali, la population en accord avec la transition, c'est le dernier rapport de la Fondation Frédéric Ebert, dénommé Mali Maître, qui le dit. Ce document de 110 pages a été présenté le 3 mai dernier à Bamako. Une opération de sensibilisation pour désengorger les voies publiques a été lancée hier à Bamako par l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. Elle vise à rendre fluide la circulation. Au micro, Mariam Maïga, à la technique, Mamadou Ouattara. Je vous le disais donc dans les titres, les femmes sont de plus en plus présentes dans les médias et autres agences de communication. Elles sont des journalistes, des reporters, présentatrices, animatrices ou encore rédactrices en chef. Mais ces dernières sont souvent victimes de violences, tant sur le terrain de reportage, mais aussi en milieu professionnel. Et ces violences se présentent sous forme, selon les témoignages, sous plusieurs formes, selon des témoignages de certaines victimes. Mais pour autant, les organisations des femmes de médias déclarent n'ayant reçu aucune plainte de violence. Pourquoi ces femmes gardent le silence? Nous en saurons plus dans ce reportage signé Lale Tangara.
J'ai une fois été victime de harcèlement dans ce métier. C'est la chose la plus gênante qui soit. Parce que déjà, les autres sont là, tout le monde voit, mais personne ne réagit.
Ici, le témoignage de Maïmouna Ibrahima Maïga, journaliste. Comme elle, les femmes journalistes sont plus touchées par le harcèlement en milieu professionnel. Parfois, celles-ci gardent le silence par peur de perdre leur travail.
Souvent, ça arrive, de l'humour noir au fait. Mais tu sais que c'est de l'harcèlement. Souvent, on laisse passer.
Parfois, nous sommes sous-estimés et dans ce cadre-là, il y a certains patrons de presse qui peuvent vouloir profiter de cette occasion pour harceler sexuellement certaines femmes.
Et même quand on demande aux femmes, vous avez été victime de harcèlement, elles vont dire non parce qu'elles ont peur des retombées.
Pour protéger ces femmes de médias, l'Alliance des professionnels de la presse écrite procède à des séances de sensibilisation pour doter ces femmes de capacité à lutter contre ces fléaux. Mais la présidente d'Ado Camara reconnaît qu'il n'existe pas à ce stade de plainte.
Oui, on a eu des plaintes, mais on les dit entre nous, ce n'est pas des plaintes formelles. On cause entre nous, on se donne des idées, on se donne des conseils. Donc c'est connu, c'est réel, tout le monde le sait.
Ces organisations des femmes de médias incitent alors les victimes de harcèlement à porter plainte, car pour elles, c'est le seul moyen d'endiguer ces phénomènes dans les médias.
Et toujours dans la célébration des activités du 3 mai, journée de la liberté de la presse, les activités continuent à la Maison de la Presse. N'hésitez donc pas à faire un tour sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Vos critiques et suggestions sont les bienvenues. Autre titre de l'actualité, le dernier rapport de la Fondation Frédéric Ebert, dénommé Mali Maître, montre un soutien affiché des Maliens à la transition en cours dans le pays. Ce document de 110 pages a été présenté le 3 mai dernier à Bamako. Il met en exergue les défis majeurs des Maliens qui restent la lutte contre l'insécurité, le chômage des jeunes, l'insécurité alimentaire ou encore la corruption de la justice. Les détails avec Moussa Mali Sissoko.
Dans ce 14e numéro de Mali Maître, 56% des Maliens indiquent qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place un gouvernement d'union nationale. 44% des personnes interrogées pointent du doigt comme défi la cherté de la vie et 38% la lutte contre le chômage des jeunes. Le rapport souligne que 57% ne trouvent pas d'avancée dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Plus de 7 Maliens sur 10 n'ont aucune connaissance du contenu de l'accord, soit 71%. Par ailleurs, 60% des Maliens ne sont pas favorables au respect du chronogramme de la transition. 9 Maliens sur 10 sont satisfaits de la gestion de la transition. Plus de la moitié de la population malienne, 57%, est insatisfaite du travail de la MINUSMA. Elle reproche principalement à la mission onusienne de ne pas protéger les populations contre la violence des groupes armés. Toutefois, les forces de défense et de sécurité représentent une fierté pour 58% des Maliens et 36% des Maliens voient en elles le leur protectrice. La collecte des données de cette enquête s'est déroulée du 11 au 23 février 2023. L'échantillon interrogé est de 2295 personnes de 18 ans et plus, réparties entre les districts de Bamako et 10 capitales régionales, notamment Menaka, Taoudéni et Kidal.
Un compte-rendu signé Moussa Malé Sissoko. Sur un tout autre sujet à présent, l'Agence nationale de sécurité routière a lancé ce jeudi en commune 4 du district de Bamako une opération de sensibilisation pour la liberté des voies publiques. Objectif, faciliter la fluidité de la circulation et minimiser le taux des accidents sur les voies publiques. Khalifa Gouita.
Pour Ousmane Maïga, directeur de l'Agence nationale de sécurité routière, l'occupation anarchique des voies publiques a augmenté le taux d'accidents à Bamako et à l'intérieur du pays. Selon lui, il est vraiment urgent d'agir contre ce phénomène.
Nous avons décidé avec la mairie et les services de la police nationale de faire cette mission qui va s'étaler sur 72 heures à Bamako, mais dans certaines grandes villes du pays, pour sensibiliser les usagers, les commerçants notamment, à libérer l'espace public sans coup de force. Après 72 heures, nous allons venir constater. S'il y a lieu, nous allons être obligés de procéder au déguerpissement.
Cette initiative de l'ANASER est salutaire pour de nombreux usagers de la route. Cependant, ces derniers recommandent qu'elle soit bien suivie.
Ils sont venus nous avertir ici. Vraiment, on apprécie cela. Mais ce délai de 72 heures est peu.
Très bonne action que nous saluons. Il y a eu des cas de mort ici. Il y a un jeune qui est venu rentrer dans un camion la nuit parce qu'il y a des véhicules qui étaient sur le goudron.
Tout dépend des autorités qui souvent prennent des décisions sans suivi.
Il faut noter que c'est au marché de Wolofobougou que les premiers avis de cette campagne ont été affichés sur des anciennes voitures garées sur la route et sur des kiosques illégalement fixés sur les voies publiques.
Ce jungle nous amène dans notre dossier de la semaine. Pour le meilleur et le pire, l'alliance aux doigts sert à sceller les liens. À la mairie ou à l'église, les époux s'échangent des bagues, communément appelées bagues d'alliance, signe d'amour et d'appartenance. Quelle est la portée donc des alliances? Jouent-elles un rôle dans le mariage? Des éléments de réponse dans ce dossier de la semaine, une réalisation de Adama Amadou Haïdara et Ami Soumbounou avec l'appui de nos correspondants.
La bague est un élément clé du mariage dans nos sociétés. Selon des religieux, la bague d'alliance sert à renforcer l'amour entre les époux. Au-delà, elle permet aussi aux deux conjoints d'éviter certaines pratiques de quand ils étaient célibataires. Cependant, les gens n'ont pas la même appréciation sur le port de ce bijou. Suivons ces réactions.
Nous, les femmes qui portons les alliances, sommes considérées comme des femmes d'autrui. Pour les hommes, porter les alliances ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent.
Moi, l'alliance me dérange parce qu'elle nous empêche de conquérir d'autres femmes.
Les femmes portent les alliances plus que les hommes.
L'alliance est très importante. Quand tu la portes, ça t'épargne beaucoup de choses. Tu ne dois en aucun cas la lever. C'est l'alliance qui fait la différence entre les célibataires et les mariés.
L'échange des alliances est un moment que l'on connaît tous, que l'on redoute même pour certains. Mais bien souvent, on ignore son origine. Pourquoi se passe-t-on la bague au doigt? Cheikh Fantamadi Traoré, officier d'état civil au centre principal de la commune 3, nous apprend que la bague d'alliance n'est pas une obligation à la mairie.
Mais au niveau de la mairie, c'est pas une obligation. C'est un fait qui a été importé ici. Très généralement, nous demandons aux mariés s'ils ont les alliances. S'ils n'en ont pas aussi, nous ne faisons pas problème parce que c'est quelque chose qui vient d'eux-mêmes aussi.
Tout comme la célébration du mariage à l'église, le port de la bague d'alliance est aussi sacré pour le chrétien catholique. C'est du moins ce que dit ici Jean-Gabriel Diarra de l'église catholique de Saint.
La bague d'alliance, c'est quand même important au niveau de l'église parce que tout ce qui est sacré doit être respecté et le port doit être obligatoire. Quelque chose qui a été béni ne doit pas aller laisser dans un tiroir, mais dans chaque chose, il peut y avoir des exceptions.
La religion musulmane n'en fait pas exception, mais il y a des conditions. Selon l'imam Ibrahim Hamadi Knandiko, le fidèle musulman peut porter la bague d'alliance si elle n'a d'autre connotation que le renforcement du mariage. Il précise par ailleurs que l'homme ne peut pas porter une bague en or.
Si l'homme et la femme portent les bagues d'alliance dans le cadre du renforcement des liens de leur mariage, ce n'est pas interdit. Mais si ça sort en dehors de ça, par exemple, en portant les bagues de mariage, ça peut apporter le bonheur, ça peut empêcher ça, ça devient carrément interdit par l'islam. Pour l'or, si la femme peut porter l'or, mais l'homme non.
De tradition à une obligation pour certains couples, les traditionalistes nous rappellent rappelle qu'autrefois, ces bagues d'alliance étaient représentées d'une autre manière dans notre société. Il s'agit notamment du fait d'attacher un morceau de tissu au poignet de la jeune fille pour montrer qu'elle n'est plus libre.
Un dossier signé Adama Amadou Haïdara. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Vous pouvez la réécouter sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appeler gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en bambara avec Juliette Koulibaly. D'ici là, excellent début de week-end à toutes et à tous. Le milieu rural est le plus touché par le travail des enfants au Mali, selon des défenseurs des droits des enfants. Les secteurs d'activité les plus concernés sont l'agriculture et l'orpaillage. En plus d'avoir des conséquences sur le plan physique et psychologique, les spécialistes affirment que ce fléau envoie les enfants à la débauche et à la délinquance. Quelles sont les causes et les conséquences du travail des enfants? Quelle est la situation au Mali? Notre magazine Tous les enfants du Mali s'intéresse à la question. Il est réalisé et présenté par Djahara Faskoué avec la contribution des correspondants.
Dans plusieurs localités du Mali, comme Kayi, Gao et Kadiolo, les enfants sont amenés à faire des activités supérieures à leur capacité physique et leur âge. C'est une situation qui dénonce certains parents.
Saïzix, viens à Gao. En tant que mère, j'aimerais que ça cesse.
Nous savons que c'est pour gagner leur vie, mais c'est aussi au péril de leur vie.
C'est dangereux pour les enfants. Ils abandonnent l'école, ils oublient les valeurs de la vie, même la religion les échappe.
Il faut vraiment que l'État prenne ses responsabilités pour que ceci soit seulement.
La région de Kaé est une zone de production minière par excellence et les enfants sont parfois exploités sur les sites miniers. Selon Mamadou Koulibaly, président du conseil régional de la société civile de Kaé, cela est dû à l'extrême pauvreté des parents.
Dans le milieu rural, l'enfant est le premier capital et la première ressource du parent parce que c'est l'enfant qui va aller faire le jardinage, c'est l'enfant qui va au champ pendant l'hivernage. Kaé étant une zone minière par excellence, il y a plusieurs enfants qui abandonnent l'école pour aller dans les placères.
Le travail des enfants, que ce soit dans l'orpaillage, l'agriculture ou autre secteur d'activité physique, peut avoir des impacts sur toute leur vie. Poursuit Mamadou Koulibaly, président du conseil régional de la société civile de Kaé.
Il y a des conséquences fâcheuses par rapport à ça. Il y a certaines filles qui s'adonnent vraiment à des pratiques qui ne sont pas du tout dignes. Ça, c'est la prostitution. Vous savez, au niveau des sites miniers, vous trouverez toutes sortes des vices. Ces enfants-là, non seulement ils ne vont plus à l'école, l'autre conséquence encore, c'est qu'ils perdent des valeurs sociétales.
Et pourtant, les textes interdisent le travail des enfants à un certain âge au Mali. Les statistiques sont alarmantes, selon Salif Bagayogo, conseiller technique au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social.
L'âge minimum d'admission à l'emploi chez nous, c'est 15 ans. Et dans notre constitution, l'enseignement primaire est obligatoire, gratuit et laïque. Donc jusqu'à 15 ans, l'enfant ne devrait être qu'à l'école. Mais les statistiques que nous avons prennent en compte des enfants de même 5 ans jusqu'à 17 ans, 18 ans, qui sont dans des conditions très néfastes et c'est des millions d'enfants au Mali.
Le contexte de conflit impacte aussi les enfants. À Gao, les enfants sont amenés jusqu'à prendre des armes, selon Madame Sanogo Bintou Traoré, directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Gao.
Depuis l'événement de la crise, on a eu à assister plusieurs enfants ici qui étaient associés aux forces armées. C'est des enfants qui sont, soit ils font des commissions pour les mouvements et groupes armés, ou bien soit c'est des porteurs d'armes même.
Certains enfants qui ont pu échapper aux travaux champêtres et miniers sont récupérés par certaines organisations pour la protection des enfants. Certains sont réinsérés, affirme Oumar Traoré, chargé des plaidoyers et de communication à l'organisation Save the Children.
On a retiré des milliers d'enfants de ces travaux dangereux. On les a inscrits à l'école. D'autres voulaient apprendre des métiers comme la couture, la menuiserie et autres. On a cherché des maîtres artisans pour les former. On leur a donné des kits d'installation pour qu'ils puissent travailler.
Rappelons que le cadre ministériel composé de la promotion de la femme, de l'enfant, de la justice et celui du travail a tenu une rencontre le 14 avril dernier pour faire le point sur les acquis de la lutte contre le travail des enfants au Mali.